Gérard Moulin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant chez Amplegest. On va parler avec vous d'actualité sur les marchés de perspective. Un petit mot pour commencer quand même sur ce qui s'est passé bien sûr cet été. On a parlé d'été meurtrier. Est-ce que de votre point de vue, il n'y a eu aucune discrimination sur les valeurs? Tout a, je dirais, subi cette vague de ventes.
Il y a eu discrimination. Je suis assez bien placé pour le savoir puisque je gère un fonds qui n'a que 25 lignes. En Europe et qui a vraiment pas mal résisté. Donc, il y a eu discrimination entre les valeurs en Europe.
Dans ces périodes-là, qu'est-ce qu'on fait quand il y a ce type de mouvement? On peut constater ce qui se passe, mais est-ce qu'on peut agir ou est-ce qu'on attend?
Alors, il faut analyser la situation, bien sûr. Le problème de cet été, c'est qu'il y a au moins 4 paramètres, donc il faut essayer de faire le tri. En fait, 4 paramètres dans 2 domaines. Il y a les marchés boursiers et la macroéconomie. Et puis dedans, il y a court terme et puis de l'autre côté, moyen long terme. Bon. Alors si on commence par les marchés, US et Chine se sont vraiment effondrés, on peut le dire, puisque on n'a pas vu ce genre d'accident depuis 2008, 2009 ou 2011 sur un mois. Voilà, ceci étant dit, après si on passe à la macroéconomie, est-ce que c'est vraiment grave? Nous on pense que non, voilà, on peut développer. Mais il faut bien faire le tri entre ces différents paramètres pour savoir si c'est une opportunité ou pas.
Oui, ça veut dire que ce qu'on voit, c'est les graphiques, et on voit les graphiques de la bourse de Shanghai, hein, cette bulle chinoise, et puis après il y a l'économie chinoise qui va un peu moins vite qu'effectivement au cours des dernières années, mais ça en même temps c'était un peu attendu qu'elle aille un peu moins vite.
Voilà, donc de toute façon, il y a beaucoup de Chinois particuliers ont gagné 150% en un an. Bon, donc s'ils en perdent 30-40, c'est lourd, mais il en reste encore pas mal. Ça, c'est le premier point. Donc peut-être d'ailleurs, de ce point de vue-là, on n'a pas fini de purger en Chine. Là où je n'adhère pas du tout en ce moment dans ce que j'entends, c'est qu'on assimile ça, comme je le disais, à un problème macroéconomique. Non, on n'a pas une économie chinoise qui mérite une telle sanction non plus, même si les valorisations après 150% de hausse étaient dans certains cas exagérées, bien sûr. Pourquoi je peux dire ça? Parce qu'en fait, pour un investisseur, ce qui est important, c'est quand on regarde la macro, c'est de connaître, surtout pour les émergents, c'est ce que j'appelle le taux d'équipement d'un pays. C'est-à-dire qu'en fait, à mon avis, on ne peut pas juger la Chine comme un pays occidental. Je vous prends juste un chiffre. Quand on sait qu'en Chine, il y a 70 voitures pour 1000 habitants et qu'il y en a 700 pour 1000 habitants en Europe, 800 pour 1000 habitants aux États-Unis, on comprend bien que quand on parle de problèmes liés au marché automobile chinois, on est encore dans une phase d'équipement. C'est très important. Je pourrais prendre, il suffit d'écouter les entreprises, des exemples dans d'autres domaines, comme les lunettes avec Essilor, comme justement les équipementiers automobiles avec Valeo. C'est des gens qui vous disent on fait 15% par an sur les 5 prochaines années en Chine. Ce que le financier ne sait pas faire en général, c'est le tri entre l'accident boursier et la remise en perspective de la macroéconomie. Ça, le marché ne sait pas faire. Vous le savez comme moi, il passe d'une... Il est cyclotimique, quoi. Il passe de la dépression à l'euphorie, il ne sait pas faire de tri. Donc, ce qui est intéressant dans ces phases-là, si on garde un peu la tête froide, c'est modestement, en regardant, de dire, moi, je n'ai pas bougé. En août, j'ai fait un petit mouvement, c'est tout. Sur 100 millions, je n'ai pas bougé. Donc, pourquoi? Parce que les sociétés du fonds avaient publié à 90% au-dessus des prévisions au fin du premier semestre. Alors, je me suis dit, avec peut-être des restes de bon sens paysan de mes grands-parents, si ça allait bien il y a 6 semaines, est-ce que tout s'est écroulé aujourd'hui? Et non, la réponse c'est non. Donc il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir des souscriptions, donc je garde du cash, il y a 8% de cash sur le fonds, et j'attends que ça se calme un peu pour y retourner, mais il est encore investi à 92%.
Alors, il y a aussi des questions sur les États-Unis. Alors on a parlé du marché, mais sur l'économie, on voit bien le sujet de taux d'intérêt. On avait parlé de juin, on parle de septembre, on parle de décembre. Maintenant, on se pose toujours cette même question. Ça veut dire que les marchés quand même restent toujours pilotés par ces banques centrales.
Oui. Alors là, Yellen ne nous aide pas, c'est clair, puisque en fait, ce qui a l'air de se produire, c'est qu'elle essaye de maintenir un euro-dollar au-delà de 1,10, 1,10, 1,15, pour ne pas pénaliser trop les entreprises américaines. Donc, ça ne nous aide pas parce qu'on crée cette période de flottement et justement où tout le monde se pose la question du moment. Alors, nous, On pense vraiment que ça va se faire en septembre, le 17, pour deux éléments très précis, la hausse des taux, donc, qui va être faible. Après, ce qui comptera, c'est la deuxième hausse des taux, d'ailleurs. Hein. C'est plutôt le, comme ça, de la what pace, hein, c'est le rythme, et puis après l'amplitude, voilà. Mais déjà, le premier, on pense que c'est le 17 septembre, pour deux raisons. Premièrement, le marché de l'immobilier, à tout point de vue, il est euphorique. Mise en chantier, prix du mètre carré, construction, revente, etc. C'est vraiment, bon, ça, c'est un indicateur très fort. Et le qui va les faire bouger. Et le peut-être le plus fort encore, c'est le fait que le salaire horaire aux États-Unis augmente, même pour les emplois peu qualifiés maintenant. Et c'est une chance pour les Américains, tant mieux. Dans les hypermarchés, etc., les gens sont augmentés, pour les petits jobs en général, et ça va de ça jusqu'au cadre sup. Donc c'est très bon pour tout le monde. Donc aux États-Unis, c'est la job machine qu'on aimerait bien voir ici, qui fonctionne très bien. Donc ça, sur ces deux éléments-là, nous, on pense qu'ils ne peuvent plus attendre, en fait.
Donc là, ça veut dire, dans ces périodes-là, on verra comment les marchés réalisent, mais en général, ils ne réalisent pas forcément très bien. Est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres opportunités? Vous parliez d'avoir du cash, c'est aussi des moments où peut-être c'est important d'en avoir.
Alors, ça sera bon pour les entreprises hollandaises, parce que de toute façon, ça va renforcer le dollar. Donc, même s'il y a des à-coups à nouveau de marché, dans les comptes des entreprises sur la dernière partie de l'année 2015 et sur S1 2016, voire toute l'année 2016, on aura des effets positifs de cette hausse des taux pour les groupes cotés en Euroland qui publient en euros. Donc nous, on prendra ça comme des occasions d'entrée. Après, comme on est en terrain inconnu, puisque ça fait 9 ans qu'il n'y a pas eu de hausse des taux, il faut voir comment la machine américaine se remet en route. Ce qui nous inquiète plus, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est le climat américain, en fait. Parce que le climat américain, la planète se dérègle. Et on le sent énormément, comme vous le savez, aux États-Unis. Et ce qui s'est passé, ce qui se passe maintenant au niveau climatique aux États-Unis enlève 0,5, 1, voire plus de PIB. Hein. C'est pas du tout négligeable. Ah, oui, parce que c'est vraiment concret, ces vagues de froid, etc. Et ça paralyse le pays très longtemps. Et là, on ne voit pas comment ça pourrait s'arranger. Donc ça va enlever du PIB, ça. Ouais.
Le mot de la fin, donc clairement, il peut y avoir des opportunités dans ces périodes-là, même quand, on va dire, tout est en rouge. Alors parfois, en Asie, c'est en vert, que le marché baisse.
Oui, bien sûr, parce qu'il faut vraiment, quand on est investisseur particulier ou professionnel, toujours se dire, pendant qu'on parle de tout ça, il y a des entrepreneurs qui sont à fond, excusez-moi de l'expression, mais qui vont chercher de nouveaux marchés. Je regardais par exemple un dossier comme Lint en Suisse, qu'on ne peut pas acheter depuis 4 ans parce que la valorisation est trop élevée. Vous voyez comme quoi le marché ne lâche pas tous les dossiers. Mais c'est des gens que j'avais rencontrés à Zurich il y a 6 ans, qui avaient dit on va attaquer le Brésil. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Alors que ce n'est pas du tout un marché naturel pour le chocolat. On va éduquer le consommateur, etc. Et aujourd'hui, ils ont créer le marché du chocolat au Brésil, vous savez comme moi quelle est la situation du Brésil, ils gagnent des parts de marché par rapport aux autres qui font comme eux. Voilà, ça c'est l'entreprise comme on l'aime, c'est de la croissance autonome, c'est des entrepreneurs qui continuent, le monde s'arrête jamais pour ces gens-là. Le financier, lui, son monde s'arrête, il décrète qu'un jour, le mardi ou le jeudi, c'est fini, c'est la fin du monde. Non, pour l'entrepreneur, c'est jamais fini, donc nous on accompagne ces entrepreneurs-là. Il faut que la valorisation soit raisonnable, je vous le disais, on attend que Lint revienne, mais l'actionnaire ne la lâche pas, donc on n'arrive pas à l'acheter. Puis je vous prendrai un deuxième exemple, parce qu'on s'inquiète de la Chine, ben, inquiétons-nous plutôt de la France, puisqu'à fin 2014, pour ce qui est de l'investissement, je reprenais les chiffres tout à l'heure, avant de venir, depuis 7 ans, l'investissement est flat, il n'y a pas de progression. On n'a jamais vu ça depuis l'après-guerre. Alors, qu'on s'inquiète plutôt de la France, les Chinois ont encore 2-3% de progression, investissement par an sur un pays qui fait 1,3 milliard d'habitants. Nous, occupons-nous de nous, faisons repartir l'investissement et je pense que déjà, ça sera une bonne chose.
Bien, merci Gérard Moulin d'avoir été avec nous.
Avec plaisir.